prier sans cesse. Vous savez que nous sommes dans le thème de la prière et c'est la semaine de prière de l'Alliance. Et le thème, c'est réforme ou prière. Alors, il y a une opposition. Moi, je préfère dire que la prière va plutôt nous reformer dans le Seigneur. Parce qu'on a besoin d'être reformé dans le Seigneur chaque jour. Alors, je ne voudrais pas opposer ce thème réforme ou prière, mais prière dans une reformation avec le Seigneur. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette citation de l'un de nos réformateurs. Il disait, si cette journée, il y a beaucoup de travail, eh bien, je vais d'autant plus prier. Et ça, je crois que c'est très bon pour nous en tant que pasteurs, parce qu'on a pas mal de travail, c'est vrai. Et des fois, on aurait tendance peut-être à se dire, eh bien, Seigneur, j'ai pas tellement de temps de prière, ne craignez pas. Je sais que Walter prie beaucoup et que j'essaie aussi de beaucoup prier. Mais souvent, nous avons tendance, malheureusement, à mettre de côté la prière parce qu'il y a beaucoup de travail. À combien pour cette raison, dans notre siècle où il y a tellement de choses, c'est vrai que nous avons besoin de prier. Et c'est une grâce de pouvoir le faire. Et l'un des réformateurs le disait, si j'ai beaucoup de travail dans cette journée, eh bien, je vais prier d'autant plus. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me suis confié en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'ai élevé mon âme à toi. Éternel, délivre-moi de mes ennemis. Je me suis retiré vers toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans le droit chemin. Mon Dieu, mon Père et mon Sauveur, puisqu'il t'a plu de me conserver par ta grâce pendant la nuit qui vient de finir et jusqu'au jour qui commence, fais que j'emploie, que je l'emploie tout entier à ton service et que je ne pense, ne dise ou ne fasse rien qui ne soit pour te plaire et obéir à ta sainte volonté, afin que toutes mes actions se rapportent à la gloire de ton nom et au salut de mes frères. Et de même que pour cette vie terrestre, tu fais luire ton soleil sur le monde, veuille aussi éclairer mon intelligence par la clarté de ton esprit, afin de me diriger dans la voie de ta justice. Ainsi, ô mon Dieu, à quelque chose que je m'applique, que mon but soit toujours de te servir et de t'honorer, attendons tout mon bien de la seule bénédiction et n'entreprenons rien qui ne te soit agréable. Fais aussi, Seigneur, que tout en travaillant pour mon corps et pour la vie présente, j'élève mon âme plus haut jusqu'à cette vie céleste et bienheureuse que tu réserves à tes enfants, qu'il te plaise d'être protecteur de mon âme comme de mon corps afin de me fortifier contre toutes les tentations de Satan et de me délivrer de tous les dangers qui me menacent sans cesse. Et puisque ce n'est rien de commencer si l'on ne persévère, je te demande, ô Dieu, de me conduire et de me diriger, non pas ce jour seulement, mais jusqu'à la fin de ma vie. Veuille aussi augmenter continuellement en moi les dons de ta grâce, afin que je progresse de jour en jour, jusqu'à ce que je parvienne à la pleine communion de ton Fils, Jésus-Christ, qui est la vraie lumière de nos âmes. Mais, ô mon Dieu, que je puisse obéir de toi de si grands bienfaits et aussi oublier tous mes péchés et me les pardonner selon ta miséricorde infinie, comme tu l'as promis à tous ceux qui t'invoqueront d'un cœur sincère en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Qui c'est qui a prié cette prière? Allez, je continue. Ça, c'est une prière du matin. Écoutez la prière du soir. Seigneur Dieu, puisque tu as destiné la nuit au repos de l'homme que tu as créé le jour pour son travail, je te demande d'accorder à mon corps une nuit de repos et de faire que mon âme s'élève à toi et que mon cœur soit toujours rempli de ton amour. Apprends-moi, ô Dieu, à te confier tous mes soucis, à me souvenir sans cesse de ta miséricorde, afin que mon âme puisse, elle aussi, jouir du repos spirituel. Fais que mon sommeil ne soit pas excessif, mais qu'il serve à réparer mes forces pour que je sois plus disposé à te servir. Qu'il te plaise également de me conserver pur dans mon corps et dans mon esprit, me préservant de toute tentation et de tout danger, afin que mon sommeil même puisse servir à la gloire de ton nom. Et puisque ce jour ne s'est point écoulé sans que je ne t'aie offensé en plusieurs manières, moi qui suis un pauvre pécheur, veuille, ô Dieu, de même que tu saches maintenant toutes choses dans les ténèbres de la nuit, ensevelir aussi toutes mes fautes selon ta miséricorde par Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Prière du matin et prière du soir de Calvin. Alors c'est vraiment quelque chose de profond là, quelque chose de fort. On voit que le réformateur priait cette prière. Je voulais quand même vous en dire quelques mots et simplement la lire parce que nous sommes bien entendu au 500e de la réforme et de connaître un petit peu nos origines, un peu beaucoup. C'est vraiment un homme qui remettait sa vie dans le Seigneur. Je vous propose la parole de Dieu maintenant. En Genèse 1, pour la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, et prends cette bénédiction aussi pour toi. Genèse 12, verset 1 et suivant, l'Éternel dit à Abraham, quand l'Éternel parle, il dit quelque chose d'important. Il lui dit, va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et au verset 4, Abraham partit parce qu'il a reçu la bénédiction de l'Éternel. Puissions-nous aussi agir et réagir dans cette bonne mesure quand le Seigneur nous parle d'agir directement, de ne pas discuter et d'entrer dans la bénédiction que l'Éternel a pour nos vies. Et pour donner écho à cette prière, je vous propose ce que Paul a prié dans Éphésiens chapitre 3, les versets 8 à 20, c'est assez intense. Il dit « À moi le moindre de tous les saints ». Cette grâce a été d'accorder aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable de Christ. Richesse insondable de Christ. Et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, il est tellement bon de le proclamer, prends-le pour toi, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église, bien-aimé, par l'Église, la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. C'est extraordinaire. Selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus, notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes afflictions. Pour vous, elles sont votre gloire. Et regardez verset 14, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille, et on retrouve ce terme de famille que nous avons trouvé comme écho à Genèse 12, on retrouve ce terme de famille dans les cieux et sur la terre, qui tire son nom afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs. Par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints qu'il est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment delà de tout ce que nous demandons ou pensons, amen. À lui la gloire, où cela, mais bien sûr, dans l'Église et en Christ et dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Quelle prière de Paul, c'est une doxologie, Paul donne gloire à Dieu. Je vous rappelle, nous sommes dans le thème de la prière, la bénédiction de l'Éternel, c'était mon premier point, vous l'avez certainement compris. Et c'est extraordinaire, c'est que dans ce terme de famille, ce terme est constitué de générations qui sont ensemble. Et la famille, ce sont les générations qui sont ensemble. Et c'est extraordinaire, Paul a compris la révélation de Dieu par rapport à ce Genèse 12, où toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham et par la foi du fait que nous sommes fils d'Abraham, par la foi, amen. Toi qui as la foi, tu es fils d'Abraham. Toi qui n'as pas la foi, tu n'es pas fils d'Abraham. Nous sommes fils d'Abraham dans la mesure où nous faisons confiance en l'Éternel. Et Paul avait placé toute sa confiance en l'Éternel. Et c'est pourquoi il y a cet écho dans son cœur. Il fléchit le genou devant le Seigneur. Il rend gloire dans le Seigneur. Il rend gloire dans le cadre de l'Église qui est constituée de ses familles qui sont liées par ce qui est générationnel et intergénérationnel. Et c'est tellement important de le réaliser parce que vous êtes le produit de la grâce, de la foi de ceux qui vous ont précédé. et nous serons le produit de ceux de la foi qui nous suivront. Et c'est pourquoi nous sommes tellement sollicités dans nos cœurs, c'est peut-être pourquoi aussi nous avons tellement de luttes dans nos vies que l'ennemi essaye de nous enlever la foi, tout simplement parce que quand la foi disparaît, il n'y a plus rien qui tienne. Quand la foi demeure, malgré si toutes choses disparaissent, eh bien, ces choses demeurent parce que nous avons cette foi fondée dans le Seigneur. Amen. Bien sûr que Paul, dans le cas de la prière, il parle d'adoration là. Et c'est une prière absolument extraordinaire. C'est une prière merveilleuse. La part du Seigneur, le Seigneur est tellement glorieux. Dieu est tellement bon. Les choses de Dieu sont tellement extraordinairement établi dans son autorité. Et Paul a compris ces choses. Deuxième point, je viens bien entendu à ce qui est de la prière à proprement dite, comme Jésus nous en a parlé. Et prenez le sermon sur la montagne, bien sûr, c'est dans le cadre du sermon sur la montagne, en Matthieu 5, c'est tellement important ce que Jésus nous enseigne dans le cadre de la prière. Et ce qui m'a touché en redécouvrant ces choses, et je les redécouvre bien entendu avec vous ce matin, c'est tellement extraordinaire, c'est que la première mention de la prière, dans ce chapitre 5 de Matthieu, sermon sur la montagne, chapitre 5, versets 43 et 44. Regardez ce que Jésus adresse à la foule et nous adresse encore aujourd'hui. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. J'étais absolument choqué de voir que la première mention de Jésus au niveau de la prière, c'est dans ce cadre-là, de prier pour ceux qui vous persécutent. Et bien aimé, nous qui avons reçu l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs, la première chose que Dieu nous demande, c'est de prier pas forcément pour nos besoins, c'est de prier pas forcément pour nos difficultés, c'est de prier pas forcément pour ce qui nous préoccupe, c'est de prier pas forcément pour ce qui nous agresse peut-être, ce n'est pas forcément prier pour ce qui nous offense, mais c'est de prier pour ceux qui nous persécutent. Bien-aimé, c'est une clé ce matin pour toi et pour moi. La première mention de Jésus dans le sermon sur la montagne, de ses béatitudes, c'est de prier pour ceux qui nous persécutent. Et là, je dois réorienter ma vie. Là, je dis, Seigneur, il y a un boulot à faire dans ma vie. Parce que, je ne veux pas dire que je perds du temps, souvent. Alors, on a le droit de crier, bien sûr, on a le droit de crier au Seigneur. Il y a les psaumes qui sont là, David crie toute sa misère, tout ce qui l'offense, etc., etc. Je veux dire, vous savez combien David est un homme de prière qui répand son cœur devant le Seigneur. Mais l'enseignement de Jésus, je dis, mais c'est pas une comparaison par rapport à l'Ancien Testament, vous comprenez bien. Ce qui m'a vraiment resitué dans ce début d'année, ce qui me touche dans mon cœur, c'est que le Seigneur demande avant tout de prier pour ceux qui me persécutent, pour ceux qui me font du tort, et de les bénir, et de ne pas rendre le mal pour le mal, mais de rendre le bien pour le mal. Première notion de la prière de Jésus dans le cadre de ceux qui me persécutent. Quand on regarde le terme de prière, de quoi est-ce qu'il a été, est-ce qu'il est constitué, je ne vais pas forcément être trop technique ce matin. Littéralement, la prière, c'est de se tourner vers le vœu que nous voudrions qu'il soit bon. Donc, on se tourne, le terme est constitué par quelque chose qui nous conduit, qui nous tourne vers quelqu'un, et c'est le Seigneur. Quand tu te mets à prier, ton être se tourne automatiquement vers le Seigneur, et pas vers quelqu'un d'autre. Il y a cette notion en grec de pros, qui se tourne vers, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est encore constitué d'une petite particule qui veut dire bien et souhaiter le bien. Donc quand tu te tournes vers le Seigneur, tu souhaites le bien. Est-ce que tu pries toujours dans ce sens? Parce que le terme de prière, c'est se tourner pour souhaiter quelque chose de bien en te tournant vers le Seigneur. Vous voyez l'offense quand lorsque nous prions pour quelque chose d'autre, vous savez que le monde occulte prie aussi, et c'est une déformation de cette notion, de ce terme de prier qui nous donne de souhaiter quelque chose de bien en nous tournant vers le Seigneur. Et j'espère que quand tu pries, tu as toujours cette attitude de te tourner vers l'Éternel, le Dieu vivant, pour souhaiter quelque chose de bon et de bien. Parce que le terme lui-même, si tu dis je prie, c'est-à-dire que je me tourne vers le Seigneur pour souhaiter quelque chose de bien et continuellement. J'aime bien faire de temps en temps des études de mots comme ça pour me resituer, parce que des fois, je ne sais pas si j'ai toujours bien prié, je ne sais pas si j'ai toujours... Vous voyez, on se remet en question ce matin vraiment humblement devant le Seigneur. Deuxième mention, bien entendu, de la prière, bien c'est dans notre Père. Matthieu 6, à partir du verset 5, parce que Jésus doit resituer la dimension de la prière qui avait certainement été déformée. Il dit au verset 5, chapitre 6, c'est lorsque vous priez. Lorsque vous tournez vers le Seigneur pour demander quelque chose de bon et de bien. D'accord ? Lorsque vous le faites, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout, mais qui aiment à prier normalement, se tourner vers le Seigneur en souhaitant le bien. Et voyez ce qui se passe là. Lorsqu'ils se mettent à prier, qui aiment à prier ? Ils aiment à prier debout, dans les synagogues et au coin des rues, pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si tu n'as pas encore reçu ta récompense ici-bas, en faisant le bien, tu vas le recevoir dans l'éternité. Amen. Ne fais rien ici-bas pour recevoir ta récompense, parce que si tu veux recevoir ta récompense, tu l'as déjà. Et puis en haut, ça ne va pas compter. D'accord ? Donc tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu, pour ne pas recevoir une récompense ici-bas. Ça, c'est du pharisaïsme, ça, c'est du légalisme, c'est de la gloriole, c'est de l'orgueil. Ça, ça n'a rien à voir avec la prière. Il y a un grand mais, il y a un contraste, verset 6, vous le connaissez, mets-toi quand tu pries. Entre dans ta chambre. Pas de gloriole, là, t'es seul dans ta chambre. Et ferme ta porte pour prier ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret, là, il va te le rendre. Pas au coin des rues, pas debout dans les synagogues pour être vu, ou dans l'église ou quoi que ce soit, mais dans le secret de la prière. Bien-aimé, continuez de venir prier à l'église. Oui, s'il vous plaît. L'église est un lieu pour la prière. Mais on ne prie pas pour faire des éloges, pour dire, regarde comme je prie, j'étale toute ma science, regarde comme je connais la parole de Dieu. Attention, il peut y avoir un danger. Si ça sort du cœur, bien entendu, c'est extraordinaire. C'est pour une gloriole, Dieu voit ton cœur. C'est quelque chose de très dangereux. Ce n'est pas l'attitude de prière à avoir. Verset 7, tu peux être libéré ce matin en priant, en te tournant vers l'Éternel pour lui demander, pour souhaiter quelque chose de bon, d'agréable, de juste. Amen. Alors ne multiplie pas les vaines paroles comme les païens, car ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Oh Seigneur, je demande pardon parce que des fois j'ai faute de parole devant toi, comme ce matin peut-être, je ne sais pas, mais on parle beaucoup devant le Seigneur. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Nous le savons ces choses, nous sommes tellement prompts à oublier ces choses. Vous donc, priez ainsi, et on le prie tous ensemble, notre Père. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et donne-nous aussi aujourd'hui notre pain de ce jour, bien entendu, on ne l'a pas oublié cela. Ce Notre Père qui est tellement important. Et voyez, on accorde le pardon à ceux qui nous ont offensés et nous prions et on revient à ce que Jésus nous a enseigné tout au début dans ce chapitre 5, bien entendu, où il y a cette grâce de pouvoir prier et de pouvoir bénir ceux qui nous persécutent. Les sortes de prières. Il y a bien sûr Jésus dans Matthieu 14, un peu plus loin, au chapitre 14, verset 23. Si vous voulez suivre, Jésus qui, après avoir renvoyé la foule, il monte sur la montagne pour prier, pour se tourner vers Dieu, pour prier quelque chose de bon, pour répandre son cœur dans la joie, dans la grâce de Dieu à l'écart. Le soir venu, il était là seul. On le retrouve aussi dans Marc 1, 35, où il prie dès le matin. On le retrouve dans Luc 5, 16. On le retrouve encore dans Luc 6, 12. À l'écart, dans le secret de son cœur avec le Seigneur, pas pour faire une démonstration absolument extraordinaire. Il y a cette prière dans les sortes de prières à l'écart. Il y a bien entendu aussi des prières de bénédiction. C'est dans Matthieu au chapitre 19 quand Jésus, vous en souvenez, va prier pour les enfants, les petits-enfants. Les gens lui amenèrent des petits-enfants, verset 13 du chapitre 19, afin qu'il leur impose les mains. Et il prie pour eux, mais les disciples les rabrouèrent. Et Jésus leur dit, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour leurs pareils. Il leur imposa les mains, il les a bénis et il est parti de là. Donc il y a des prières de bénédiction. Bien entendu, il y a aussi cette prière de supplication. Nous pouvons voir dans Philippiens 4, au verset 4 et suivant. Philippiens 4, verset 4 et suivant. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ça fait bientôt 2000 ans que ça a été écrit. Le Seigneur est très proche, amen, mais il est aussi proche de ses circonstances. Il est proche de ce que tu es en train de traverser. Le Seigneur est proche de ta vie. En ce début d'année, le Seigneur est proche de toi. Alors ne vous inquiétez de rien parce que le Seigneur est proche. Mais en toute chose, par la prière, c'est-à-dire en me tournant vers le Seigneur, pour souhaiter quelque chose de bon et de bien, et la supplication avec des actions de grâce, eh bien, je fais connaître à Dieu mes demandes. Faites connaître à Dieu vos demandes. Et regardez la conséquence de cette attitude. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, bien entendu, parce qu'on se tourne vers Dieu pour ces choses. Amen. Des fois, on vit des contradictions dans notre vie. Et c'est une suite à la prière. Parce que mon cœur est bien disposé, parce que je choisis de disposer mon cœur la manière que Dieu veut, parce que je me tourne vers le Seigneur. Et dans mes circonstances tellement difficiles, de mes galères, de mes problèmes, eh bien, le Seigneur me demande de me tourner vers le Seigneur. Proseikomai. C'est ça ce terme de prière. Pros, vers, œil bien et komai pour souhaiter quelque chose de bon. Et c'est un verbe à la voix moyenne. Je suis désolé, je suis quand même obligé de le dire. Ce verbe à la voix moyenne, c'est quelque chose qui se répercute sur toi. D'accord ? Ce verbe prier, automatiquement dans cette forme moyenne, se répercute sur le sujet qui prie. Mais gloire à Dieu ! Rien que dans ce terme de prier, ça m'enseigne. Parce que je me tourne vers le Seigneur. Mais en me tournant vers le Seigneur, eh bien le Seigneur, cette prière retourne vers moi pour justement me bénir. Donc c'est pour ça qu'on prie sans cesse. Et c'est quoi prier sans cesse ? C'est être continuellement connecté avec le Seigneur. Et si tu es béni par le baptême du Saint-Esprit, qui l'un des signes initial est le parler en langue, je dis l'un des signes, mais en tout cas c'est le signe le plus évident, eh bien parle en langue. Quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même, tu t'adresses au Seigneur, tu te tournes vers le Seigneur, tu dis même des choses merveilles. Alors des fois ça m'arrive, mon épouse me dit, écoute Jean-Paul, on est en ville, tu te calmes, prie un petit peu plus, parce que des fois ça sort naturellement, alors je ne suis pas l'illuminé de service, il faut faire attention quand même, hein. Mais des fois, elle me dit, Jean-Paul, je suis en train de m'oublier. Voilà. Prions sans cesse, mais c'est une attitude de vie, bien-aimé. C'est être connecté avec le Seigneur. C'est d'être continuellement avec lui. Alors, il y a ces temps où on met à part, peut-être, et souvent, certainement, où on parle au Seigneur, mais c'est une attitude de vie. Je prie continuellement. Je suis continuellement connecté avec le Seigneur. Et si je prie, je me tourne vers le Seigneur, je choisis de me tourner vers lui, et cette prière va se répercuter sur moi qui prie. Donc, c'est quelque chose qui vient sur moi, et qui me bénit, et qui va bénir, et qui va me restaurer, qui va aussi faire quelque chose d'extraordinaire. Donc, au reste, frère, c'est pour cela que tout ce qui est vrai doit demeurer en vous, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, bien sûr, vu que je prie avec cette attitude. Ce que vous avez appris, reçu, entendu et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. C'est étonnant que Paul doive enseigner cette assemblée qui avait certainement perdu cette notion de la prière et ce que la prière représente. On a vu la prière à l'écart, on a vu la prière de bénédiction, on a vu la prière de supplication et d'action de grâce et ce qu'elle entraîne sur celui qui prie. Chaque fois que tu pries, il y a quelque chose qui se passe en toi. Il y a bien entendu la prière de détresse et c'est Jésus qui l'adresse. On reprend cela dans Matthieu 26. Matthieu 26, on est dans Gethsémané. Peut-être que tu passes un Gethsémané maintenant, peut-être que tu as des choses difficiles, insupportable dans ta vie. Matthieu 26 au verset 39. Puis il s'avança un peu. Matthieu 26, 39. Se jeta sur sa face et pria. On a ce terme. On a ce terme. Jésus, jusqu'au bout, dans Gethsémané, il se tourne vers son Père. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce terme de prier, ce prosoikomai, ce verbe qui se dit « je me tourne vers l'Éternel pour souhaiter quelque chose de bon à l'heure de l'épreuve, à l'heure où il y a quelque chose de terrible qui est sur sa vie, parce qu'il doit passer par la mort de la croix. Il prie ainsi, mon Père. » Il y a ce terme de prière qui retrouve le Père. Jésus est cet exemple de prière extraordinaire. Là, il se tourne vers le Père, comme nous on le fait quand on prie. Amen. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux, que ta volonté soit faite. Parce que quand on prie, ce n'est pas forcément mon plan. C'est clair que lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire parce que tu es aligné sur la volonté de Dieu. Mais lorsque tu pries, ce n'est pas pour ton agenda, ce n'est pas pour ta promotion, ce n'est pas pour quelque chose qui va te glorifier, on l'a compris. Père, si l'heure est venue pour moi, mon Père, voici cette heure, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux. Regarde un petit peu plus haut, verset 36, là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu d'y Gethsémané. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier, pour me tourner vers mon Père, pour souhaiter quelque chose de bon, d'agréable. Et je ne sais pas si la croix était quelque chose de bon et d'agréable pour lui, parce que regardez ce qu'il dit là plus loin, c'est absolument extraordinaire. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Jésus rempli de tristesse et d'angoisse. Si toi tu as la tristesse, si toi tu as des angoisses, Jésus est le seul qui peut comprendre cet état d'âme dans ta vie. Tourne-toi vers le Seigneur, toi peut-être qui as la tristesse et de l'angoisse, parce que Jésus comprend cette notion-là. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, éveillez avec moi. On ne se rend pas compte de cette heure de la croix, c'est la prière de Jésus, c'est l'angoisse de Jésus qui va porter mon péché. Il y a aussi la prière de protection qui est un peu plus loin après cette heure de l'angoisse. Voilà qu'il revient verset 40 vers ses disciples, qu'il trouve endormis. Et il dit à Pierre, ainsi vous n'avez pas été capable de veiller seulement une heure avec moi. Ça c'est quelque chose aussi quand Jésus traverse cette angoisse, il était tout seul. Et Jésus sait ce que c'est que d'être abandonné même par ceux qu'il aime. Lors de la croix, il y a eu cet abandon. Et c'est pourquoi la croix est important de voir ce que Jésus a pu vivre. Parce que Jésus comprend ton abandon. Même si tu étais seul sur la terre, sache que Jésus, qui était lui seul à un moment donné sur la terre, ne t'a pas abandonné. Peut-être que tu te sens tout seul, incompris, dans l'angoisse d'une maladie, quelque chose qui est terrible. C'est vrai, quand on est malade, on se sent tout seul. Mais dans ce tout seul, il y a Dieu qui est avec toi. Amen. Regardez verset 41. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il y a une prière de protection. La prière nous protège parce qu'en priant, en me tournant vers Dieu pour le bien et souhaiter le bien et prier dans la dimension du bien, je suis protégé de la tentation. Prière de protection. On trouve ça aussi dans Marc 13, 18, 33. Et puis regardez, on revient un petit peu avant là. On a rendez-vous avec les pharisiens quand même un petit coup ce matin de nouveau. Matthieu 23, verset 13. prière de malheur. La prière qui est destinée à se tourner vers le Seigneur pour souhaiter le bien et faire le bien. Jésus commence là par malheur. Malheur à vous, scribes pharisiens, hypocrites, à cause de leur hypocrisie. Et en termes, c'est hypocritos. L'hypocrite, c'est un comédien. Et l'hypocrite, par définition du terme grec, c'est d'être sous le jugement. Si tu es hypocrite, tu es sous le jugement. Hypocrites, de crino, le jugement. Donc ne soyons pas hypocrites. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où j'ai été hypocrite. Parce que en tant qu'hypocrite, je demeure sous le jugement de Dieu. On a rendez-vous avec des choses sérieuses comme tous les dimanches, bien-aimés. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, qui êtes déjà sous le jugement parce que vous êtes hypocrites. Pourquoi ? Qui fermez aux hommes le royaume des cieux ? Vous n'y entrez pas vous-même et vous le laissez pas entrer ceux qui le voudraient. D'ailleurs, je rajoute, les prostituées vous devancent dans le royaume des cieux. C'est absolument épouvantable d'être hypocrite. Regardez verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, c'est-à-dire qui êtes sous le jugement de Dieu, parce que vous dévorez les maisons des veuves et faites pour l'apparence de longues prières, prières de malheur. À cause de cela, vous subirez une condamnation particulièrement sévère. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui êtes sous le jugement déjà de Dieu, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte, c'est-à-dire un disciple, c'est-à-dire un adepte. Et quand vous êtes parvenu, vous en faites un fils de la géhenne, deux fois pire que vous. Malheur à vous, conducteur aveugle, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est encagé, etc., etc. Prière de malheur et prière qui attire le malheur. Il y a bien sûr des prières d'exaucement, Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24. Je suis tout tremblant de vous dire toutes ces choses ce matin. J'en tremble aussi, Seigneur. J'ai tellement besoin de ta grâce. Matthieu 11, verset 24. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Lorsque je me tourne vers mon Père, lorsque je lui demande quelque chose de bon, parce que c'est quelque chose de bon selon son cœur, eh bien je dois croire que je l'ai reçu parce que je le demande à mon Père. Vous, mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants parce que vous n'allez pas donner un serpent s'il vous réclame un pain, vous n'allez pas donner une pierre s'il réclame un poisson. Vous qui savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien pour votre raison, votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit, le meilleur, à ceux qui le lui demandent. Donc lorsque vous priez, eh bien croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Prière d'exaucement. Lorsque tu tournes vers ton Père Céleste, lorsque tu lui demandes quelque chose de bon et de bien, est-ce que tu crois que tu vas le recevoir, toi qui t'adresses au Dieu créateur des cieux et de la terre, à ce Dieu tout-puissant qui a permis que son Fils ait cette face contre terre et supplie son Père. Ô bien-aimé, nous avons tellement un grand Dieu. Bien sûr qu'il y a la prière d'intercession. Bien sûr qu'il y a la prière du combat spirituel. Et pour cela, il nous faut revêtir les armes, bien-aimés, pour cette prière. On va encore lire ce passage dans Éphésiens 6, que vous connaissez très bien. Éphésiens 6, au reste, frères, fortifiez-vous. Mais comment est-ce qu'on va se fortifier dans le Seigneur, par sa force souveraine? Eh bien, en revêtant toutes les armes de Dieu. Ce n'est pas mes armes, c'est les armes que le Seigneur me donne, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Éphésiens 6, à partir du verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. On sait qu'on doit et qu'on veut bénir ceux qui nous persécutent. C'est un combat spirituel. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais on a lutté contre ces esprits démoniaques. On doit avoir de la haine contre ces esprits démoniaques. Amen. Nous devons haïr, pas les hommes, mais haïr ces choses du mal. C'est pour ça qu'on peut bénir ceux qui nous persécutent, parce qu'on a compris qu'ils sont eux-mêmes manipulés par le diable. Manipulés. Alors bien sûr, ils ont leur responsabilité, bien aimé. Ils devront rendre compte de leurs actes, bien entendu. Mais je dois comprendre qu'ils sont manipulés. Parce qu'il faut être vraiment habité pour faire ces choses, bien aimé. Il y a des choses épouvantables. J'ai vu des choses sur Internet, vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors, je ne me régale pas de ces choses, mais des fois, tu tombes sur une vidéo, mais c'est absolument abominable. Mais c'est démoniaque. Ce sont des gens qui sont liés. Et nous avons la grâce de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et qu'ils soient libérés au nom de Jésus. C'est pourquoi on va se revêtir de toutes ces armes dans l'intercession, dans ce combat qu'on dit spirituel. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. On a besoin, c'est pourquoi prenez toutes, pas quelques-unes, toutes, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté en faisant le bien, tout ce qui est honorable, etc., tout ce qu'on a lu, tout ce que je vous ai dit précédemment. Tenez donc ferme, comment, avec tout ce qu'on s'est dit ce matin, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, parce qu'on est attaqué, on le sait, prenez aussi le casque du salut dans tes pensées, tout ce qui se passe, parce que le premier combat spirituel, bien aimé, ça se passe dans ta tête, tu es harcelé des fois de pensées, ça m'est arrivé, tu sais plus ce qu'il faut faire. Le casque du salut va te protéger. Proclame que tu es aimé de l'Éternel. Proclame que le salut de Dieu a eu un prix fou pour toi. Celui de Jésus à la croix qu'on a vu ce matin. Le casque du salut qui va te protéger, qui va mettre des choses en place dans ta vie. Je proclame cela sur ta vie. Quand tu revêts le casque du salut, ces pensées sont enlevées. Amen. Et l'épée de l'esprit avec toutes ces proclamations que je dis ce matin, c'est la parole de Dieu, il n'y a rien d'autre. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit, pas par ma chair, par l'esprit, parce que par ma chair, je me fatigue vite. Faites en tout temps par l'esprit, en étant habité de l'esprit, en étant envahi par l'esprit, en étant habité de la grâce de Dieu, de ce cadeau de Dieu, le Père qui va donner l'esprit à ceux qui lui demandent. Par l'esprit, faites toutes sortes de prières et de supplications et veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que je parle hardiment comme je dois en parler. Amen.